La Bible nous invite à persévérer dans l'enseignement, dans la fraction du pain, et aussi dans la prière, et prier, et persévérer dans la communion fraternelle. Ça, on a eu l'occasion de l'exprimer, de l'expérimenter aussi. On trouve plein de versets bibliques qui nous appellent à persévérer dans la prière. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Colossiens 4, 2, persévérez dans la prière. Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit, toute sorte de prière et de supplication. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dans le premier enseignement qu'on a eu avec Eric sur Notre Père, il citait du coup Matthieu 6. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, elles seront exaucées. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. On est assez embêté. D'un côté, on nous appelle à prier sans cesse et avec persévérance, et de l'autre côté, on nous appelle à ne pas rabâcher des prières, à ne pas répéter. C'est un peu un casse-tête. Dans le Nouveau Testament, j'ai trouvé peu de textes qui expliquent qu'est-ce que veut dire prier avec persévérance. J'avais trouvé que un peu pénible, mais je vais quand même vous le partager. Si on a besoin, on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre pourquoi Dieu nous demande ça. On le sait intellectuellement, mais si on ne comprend pas réellement, on ne le fera pas. Et comme beaucoup de choses, c'est comme, je l'expliquerai un peu mieux après. Je vous propose un livre, La prière renouvelée de Donald Carson. Donc, il a été chroniqué dans un bulletin il y a 3-4 mois, ou j'en sais rien. Et en tout cas, il est dans la bibliothèque. Je l'invite à le lire. Il est très intéressant et il se base beaucoup sur les prières de Paul, de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Donc, je vous propose de regarder ce que Jésus raconte en Luc chapitre 18, des versets 1 à 8. Pour montrer, alors ça s'affiche, hein, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mes adversaires, mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes. Cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta. Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qui tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? Vous voyez cette parabole un peu casse-pied, pour changer de la tête. On ne sait pas trop comment la prendre, comment la comprendre. Donc je rappelle qu'une parabole, c'est prendre une situation de la vie courante, en retirer quelques aspects pour l'appliquer à une réalité. Et là, Jésus, il se dit, je vais carrément leur dire pourquoi je leur dis cette parabole. C'est ce qu'il nous dit. Le premier, c'est pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment et sans se décourager. D'autres versions parleront de persévérance. Et Jésus, il voit encore que ça ne marche pas. Pour aller encore plus loin, il va dire, regardez comment réagit le juge? Notez comment il réagit. Et vous avez vu comment il réagit? Au bout d'un moment, le juge va faire justice à la veuve parce qu'elle vient lui casser la tête, elle vient lui casser les pieds. Et il en a marre. vous rendez compte, hein, si une personne vient à chaque fois vous dire « Rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice !» Ou comme l'âne dans Shrek, il va dire « On est bientôt arrivé, on est bientôt arrivé !» C'est quelque chose qui prend vraiment la tête. Hein. Je sais pas si vous avez déjà regardé les séries télévisées. Hein. Moi, je regarde quelques-unes. Et grâce à Nicolas et Sophie, j'ai regardé Suits. Alors, Suits, c'est l'histoire d'un cabinet, d'avocats aux États-Unis. Et vous avez Harvey. Harvey, c'est le type sur la droite. Un type qui se moque de tout le monde. Il n'a rien à faire de tout le monde. Ce qui l'intéresse, c'est de gagner de l'argent à n'importe quel prix. S'il peut écraser tout le monde, il s'en moque. Le plus pauvre, il s'en moque. Il se moque de tout. Ce qui l'intéresse, c'est préserver sa dignité et préserver son capital financier. Mais il y a son collègue, Mike Ross. Lui, il aime bien défendre la cause des pauvres gens, où il n'y a pas d'enjeu financier. Et il va souvent bassiner Harvey de défendre la cause des démunis. Et à force de bassiner Harvey, Harvey va lui dire « Ok, on va, comme ça, ça c'est fait, et puis après on passera à autre chose. » Harvey va défendre la cause, parce que Mike vient lui casser les pieds. C'est un peu notre histoire moderne. Dans la parabole, Dieu est comparé au juge, et la femme est comparée plutôt à nous. Dieu est comparé au juge qui se moque de tout le monde, et même de Dieu. Alors, c'est un peu bizarre, hein, mais je n'évoquerai pas cet aspect-là. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut persévérer dans la prière pour casser les pieds à Dieu, si tant est qu'il en est, pour qu'il réponde à nos prières? On dirait bien, à première lecture. Mais comme on a pu le voir avec Chantal, Dieu, dans la Bible, n'est pas quelqu'un qui ne veut pas être en relation avec nous, n'est pas quelqu'un qui n'aime pas la vérité et la justice. C'est quelqu'un qui est généreux, qui est patient, qui aime prendre du temps avec sa création, avec ses créatures. Donc, ce n'est pas compatible. Ce type d'interprétation n'est pas compatible avec le contexte de la Bible. Et en plus, Jésus va dire que Dieu fera justice à ses enfants qui crient à lui jour et nuit. À ses enfants qui prient sans cesse, sans se relâcher. Dieu leur fera justice rapidement ou promptement. Alors la question, si ce n'est pas sur ça qu'on peut se baser pour faire la comparaison, sur quoi on peut se baser? Leurs compétences. La femme a un problème avec quelqu'un. La vérité doit être rétablie. Naturellement, on va voir quelqu'un qui gère ces situations, qui va pouvoir mettre la vérité en lumière. Ça tombe bien, c'est un juge. Elle va voir un juge. La femme ne va pas voir son boucher, Martin, ne va pas voir Victor, le nettoyeur. Non, elle va voir celui qui est compétent, le juge, pour l'aider. Seul le juge peut l'aider dans cette situation. À la confiance que le juge est complètement compétent, alors c'est exagéré, hein, compétent en plus complètement compétent, mais qui est très compétent pour établir la vérité. Et en plus, comme la femme est persuadée d'être dans son droit, elle va aller voir le juge, elle va aller porter sa requête. Si vous savez que vous n'allez pas gagner gain de cause, vous n'allez pas aller voir un juge, vous l'avez resté chez vous, vous n'avez pas engagé des poursuites, qui, à mon avis, alors je ne sais pas à l'époque, je n'ai pas regardé, mais aujourd'hui, ça coûte quand même de l'argent si vous perdez. Vous n'engagez pas à la légère, hein, si vous engagez des poursuites. Prier avec persévérance, c'est prier en ayant confiance en Dieu et en ayant une juste prière. Je vais un peu développer ces deux aspects. Donc la femme prie parce qu'elle sait que Dieu est compétent, que Dieu répondra et qu'il écoute. Le verset 8 hein, nous rappelle qu'il va répondre rapidement. Mais le rapidement de Jésus, c'est un peu compliqué. Il a dit aussi « je reviens bientôt hein. ». Et ça, c'est on est un peu embêté avec ça aussi. Mais je vais quand même continuer. On va essayer de comprendre. Le prophète Élie, dans l'Ancien Testament, a prié deux fois pour la guérison d'un enfant, un roi 17. Et après quoi, Dieu a guéri l'enfant. Dieu a répondu au bout d'un moment. L'apôtre Paul a prié Dieu trois fois pour que Dieu lui enlève une écharpe dans la chair. Et Dieu lui a répondu, « Ma grâce suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Dieu a répondu, pas comme Paul l'aurait désiré. Jésus, dans le jardin de Gethsémané, par trois fois a prié, a demandé à Dieu, « Éloigne cette coupe de moi. » Il lui dit, « Que ta volonté soit faite. » Et Dieu a fait sa volonté. Dieu, Jésus, n'a pas bu cette coupe. Dieu répond, et pas forcément comme on le veut. Nous aussi, on demande pas mal de choses à Dieu, et nous avons confiance, nous savons qu'il est capable de répondre, de nous les accorder. Nous le savons, nous avons confiance en Dieu. Mais en réalité, je ne suis pas certain qu'on a une entière confiance en Dieu. Je ne suis pas certain qu'on soit confiant qu'il est capable de faire aboutir nos requêtes. Paul va dire aux chrétiens de Philippe, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Les inquiétudes, ce n'est pas quelque chose de très intellectuel. On est plus dans les émotions. Nous savons, hein, nous savons qu'il ne faut pas s'inquiéter, que Dieu est puissant, que Dieu est capable, que Dieu répond, que nous sommes en lien permanent avec lui. Mais le vivre, c'est complètement différent. Alors, je vais vous proposer une piste en deux étapes. Donc, une piste en deux étapes pour nous aider à vivre ce que nous croyons. S'appuyer sur des choses solides, la parole de Dieu. Essayer de garder en tête des paroles de Dieu, les paroles, les déverser de manière exacte. Nos pensées, souvent, vacillent, hein, vous connaissez le téléphone arabe, et nos pensées, des fois, sont comme ça. Avec le temps, on change un peu les choses. Avec la parole de Dieu, elle ne change pas. Donc, se souvenir des vérités sur Dieu. On a essayé, vendredi soir, pendant la rencontre de prière, de se souvenir de ce qu'avait fait Dieu au cours de l'histoire de l'Église, pour pouvoir être plus reconnaissant. Donc, se souvenir. Et deuxièmement, de lui demander de nous donner toujours plus de foi, de manière à comprendre tout ce qu'il a fait pour nous. Et prendre du temps pour mesurer ces enjeux. C'est ce qu'on appelle la méditation. Prendre du temps pour ruminer, pour se mettre en tête les textes. Et voilà, et laisser Dieu nous parler. Il y a un bouquin qui va sortir ou qui est sorti. Il doit être sorti. Hein. Sur les émotions. C'est les émotions et la vie en couleur. Ou la vie en couleur, voilà. Et l'auteur, il donne un exemple. Quand un enfant reçoit un cadeau, il déchire le papier et parfois il pleure parce qu'il ne comprend pas ce qu'est le cadeau. Mais quand le père lui explique à quoi il sert, tout l'intérêt de ce cadeau, l'enfant est tout heureux et joyeux. Parce qu'il a compris à quoi il sert. Il a compris de manière intellectuelle et ça lui a libéré une pleine joie pour le Seigneur. Il vit après ce qu'il pense. Nous aussi, nous avons besoin de comprendre la croix. La croix, on l'accepte. Intellectuellement, en tout cas pour ma part, c'est ok, très bien. Mais le vivre, c'est complètement différent. Et Paul, justement, dans une de ses prières, il demandera, Éphésiens 1, 16 à 19, « Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, dans le but de, afin que, vous compreniez à quelle espérance il vous appelait, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Voilà. Voilà une proposition pour vivre, pour essayer de vivre concrètement la confiance en Dieu. Priez avec persévérance, c'est avoir confiance que Dieu va répondre, qu'il va répondre rapidement, parce qu'il est compétent. Vous vous souvenez du verset à la fin ? Seulement, parce que le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? Si la veuve persiste, tout finira bien pour elle. Seulement, est-ce qu'elle va persévérer ? Est-ce que nous allons garder confiance en Dieu ? Et pour moi, la persévérance de nos prières démontre que nous sommes confiants en Dieu. Et pour moi, ça paraît être un poteau indicateur. Pourquoi arrêtons-nous de prier ? Bien sûr, si on n'a pas eu de réponse, hein, ça c'est sous-entendu. Pourquoi on arrête de prier ? Est-ce que c'est un manque de confiance ? Ou alors parce que notre prière n'est pas très... pas juste. D'exterminer, par exemple, notre voisin parce qu'il fait trop de bruit. On peut le penser. De manière naturelle, on ne va pas le prier. Mais des fois, on ne sait pas trop, c'est un peu border. Et on, voilà. Et au bout d'un moment, on va arrêter de prier ça parce que c'est trop border. Prier une juste prière. Toutes nos prières sont bonnes à dire à Dieu. Dieu entend tout. Hein. Je veux dire, il a des oreilles pour entendre. Mais elles ne sont pas toutes justes. Elles ne sont pas toutes dans la volonté de Dieu. Et là, je vous envoie à Nicolas pour la semaine prochaine. Il y a deux groupes de maisons, il n'y a pas la fois précédente d'avant. À la fin, on prend un temps pour prier. Et la question, c'est, mince, je me suis posé la question, hein, quel était mon sujet de prière de la fois encore précédente ? Eh bien, j'étais mal. J'ai essayé de... Je me dis, je ne vais pas inventer quand même à dire que c'était ça. Mais je ne me souvenais plus du sujet que j'avais proposé. Et je trouve que ça craint. Ça craint parce que je prends la prière à la légère. Et C.S. Lewis dit en plus, « Si Dieu avait exaucé toutes les stupides prières que j'ai faites dans ma vie, où serais-je maintenant ?» Des fois, c'est bien qu'on ne s'en souvienne pas, que lui non, enfin, qu'il ne les exauce pas. Mais pourquoi je ne m'en souviens plus ? Soit que ma prière n'était pas conforme, et du coup, je l'ai abandonnée. C'est possible, hein ? On se rend compte en fait que ce n'est pas juste ce qu'on demande à Dieu. Soit que Dieu a répondu, et du coup, on a oublié, il a répondu. Mais souvent, on oublie aussi de le remercier parce qu'il a répondu. Donc, on passe pour des enfants ingrats. Hein. On demande, c'est bon, là, on se casse. C'est assez rapide. Et c'est souvent comme ça. Du coup, en préparant cette prédication, je me suis remis à faire des listes de prières. Ce que je disais encore hier, Eric, ce qui est embêtant quand on prêche, c'est que ça nous demande une exigence aussi sur nous. Donc du coup, je me suis remis à faire des listes de prières pour ne pas me lasser de prier pour des œuvres, pour les gens, pour l'Église, de ne pas oublier. Et c'est ce que je vous encourage à faire si vous avez une mémoire très limitée, comme la mienne. Prier avec persévérance, sans se lasser, ça permet d'éprouver notre prière et de l'affiner. Ça permet de nous laisser renouveler, de laisser Dieu nous renouveler. Ça permet aussi de nous rendre disponibles dans les mains de Dieu. Et je vais encore continuer un peu d'expliquer. Souvent, on va prier pour les choses du moment. La crise, c'est toujours C.S. Lewis, hein, parce que je l'aime bien. La crise du moment présent apparaît toujours la plus grande, comme le poteau télégraphique le plus proche. Et dit, n'y a-t-il pas là un danger qui écartera nos besoins profonds, permanents et objectifs, souvent plus importants ? Pour moi, les listes permettent de se souvenir des prières plus importantes, plus objectives. reprendre sans se lasser des sujets de prière, a priori, bien sûr, auxquels Dieu n'a pas répondu, je le sous-entends, hein, nous aide à rechercher la volonté de Dieu dans sa parole, à lui demander de nous renouveler, renouveler nos pensées, de nous laisser imprégner par lui. On va rechercher sa volonté. Et peut-être qu'on se dira, ah ben en fait, quand je continue à lire, je vois que ce n'est pas dans sa volonté. Et on stoppe nos prières. La prière, ça nous engage. Prier que ton règne vienne, ce n'est pas que ton, règne vienne ailleurs, là-bas, mais c'est aussi que ton règne vienne en moi. Donc ça implique de me transformer. Une prière, ça engage. Quand Jacques dit, si ton frère a faim, ne fais pas seulement que prier pour lui, agis aussi pour lui. Donc dans la prière, nous prenons aussi des engagements avec Dieu. Si on prie pour que le Seigneur touche le cœur d'un de nos proches, et c'est une prière qu'on peut faire souvent, on se dit, mais c'est toujours pareil. On peut se demander aussi, dans aujourd'hui, comment je peux être utile à nouveau pour cette personne. Donne-moi peut-être la patience envers cette personne, de la disponibilité. Si on prie pour les chrétiens persécutés, c'est aussi demander à Dieu comment nous pouvons les aider à mieux œuvrer. Ça pourrait être peut-être juste envoyer une carte, aller leur rendre visite, si on a un peu de disponibilité, de l'argent. Nous prions aussi régulièrement pour les familles de l'Église, pour des gens de l'Église, ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est pareil, ce n'est pas pour faire une croix dans la checklist. Enfin, dans l'état d'esprit, en tout cas. Après, on le fait peut-être des fois comme ça, mais dans l'état d'esprit, ce n'est pas fait pour ça. Ça nous engage à aller prendre des nouvelles des uns et des autres, voir comment ils vont. Que la fois prochaine, on se pose la question, ok, on a discuté de ça, comment ça va ? Ça nous implique à vouloir aider notre frère à grandir dans la foi. Prier avec persévérance nous aide donc à éprouver notre prière pour l'affiner, demander les choses justes à Dieu, nous rendre disponibles pour écouter Dieu, laisser nous façonner et être utile entre ses mains. Juste brièvement, on parle de prier sans cesse, qui est assez proche de prier avec persévérance. Là, dans le texte, est marqué que Dieu répondra à ses enfants qui prient à lui nuit et jour, ou jour et nuit. Je ne me souviens plus. À un moment donné, il est bien clair qu'il faut dormir. Et qu'à ce moment-là, souvent, enfin, pour ma part, cette nuit, je n'ai pas trop maîtrisé mes pensées. J'ai rêvé que j'avais perdu mes notes, donc vous voyez. Donc, on ne maîtrise pas ses pensées. Prier, ce n'est pas la position réglementaire, les mains jointes, les yeux fermés, la tête vers le bas, avec une prière qui commence par Seigneur et qui finit par Amen. Ce n'est pas ça non plus, prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est être en communion avec Dieu, être uni à lui tout le temps. Donc, de manière objective, hein, intellectuellement, on le sait. Dans la pratique, c'est différent. On ne se rend pas toujours compte que Dieu est là, qu'il est à nos côtés. C'est être conscient qu'il est présent à côté de nous. Comme quand vous promenez avec quelqu'un. Vous savez qu'il est là, hein, parce que vous voyez bien qu'il est là. Vous n'allez pas tout le temps lui parler, enfin, pas pour tout le monde, des fois vous faites des pauses, mais des fois vous allez juste dire quelques mots. Mais parce que vous êtes conscient que cette personne est là. Neil Blow, il dit que prier sans cesse est le fait d'orienter notre pensée et toute notre activité vers une vie vécue consciemment dans la présence de Dieu, animée par son esprit. Voilà, justement, vous voyez la photo, quand vous tapez prier sur Internet, prier avec persévérance ou prier quelque chose, vous voyez beaucoup de gens avec les mains baissées, les mains jointes, la tête baissée. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de culturel, hein. La prière, c'est comme ça et pas autrement. Mais prier sans cesse, c'est être conscient, être en communion avec Dieu, être conscient de sa présence animée par son esprit. Pour résumer, prier avec persévérance, c'est prier en ayant confiance en Dieu. C'est prier au maximum une juste prière. La prière persévérante nous permet d'affiner nos prières, de laisser Dieu nous renouveler, de laisser Dieu nous utiliser. Et je reviens toujours à la même question. Pourquoi arrêtons-nous de prier avec persévérance? Avons-nous perdu la confiance en Dieu? Est-ce que Dieu, on pense qu'il n'est pas capable? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore des gens qui lui fassent confiance? Il est important de remercier Dieu pour tout, pour ses accomplissements, pas toujours dans le sens qu'on l'aurait voulu, mais ça nous rappelle que Dieu est fidèle et qu'il répond. Je lis juste lire une prière de Paul pour nous en conclusion. Voici ce que je demande à Dieu dans mes prières. Que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi d'une vraie connaissance et de compréhension parfaite, pour que vous soyez capable de discerner ce qui est bien. Ainsi, vous serez pur et irréprochable au jour de la venue du Christ. Vous serez riche des actions justes produites en vous par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.